Aujourd'hui, il est question de Saint Anselme de Canterbury, dont c'est la fête. C'est le plus grand penseur, le penseur peut-être le plus influent, en tous les cas, du XIe siècle. C'est un des grands personnages de l'histoire de l'Occident. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint Anselme de Canterbury, comme son nom le dit, a bien été archevêque de Canterbury ou Canterbury en Angleterre. Mais ce n'est pas un Anglais. Il est né dans le Piémont en 1033 à Aoste, dans cette belle vallée au pied des Alpes, où ça doit être magnifique de grandir là. Son père s'appelait Gondulphe, étrange nom. Il appartenait à la famille de Gilbert, une très grande famille, d'où est sortie plus tard, d'ailleurs, la célèbre comtesse Mathilde. Et sa mère était une femme remarquable, extraordinaire, mais elle avait un nom absolument invraisemblable, Hermamberge. Et elle était probablement alliée au marquis de Turin et au premier prince de la maison de Savoie. Dès sa plus tendre enfance, Anselme a démontré une grande ardeur pour l'étude. C'était un enfant déjà attentif. Alors, il a été confié, assez jeune, aux bénédictins d'un prieuré qu'il y avait justement à Aoste. Alors, tout jeune élève, il s'éprend de ses maîtres qu'il aime beaucoup, ces bénédictins, et eux l'entraînent à apprendre avec beaucoup d'intelligence et lui apprennent évidemment une foi vive et profonde, la grande foi des bénédictins centrée sur l'essentiel de la foi chrétienne. Peu à peu apparaît dans l'âme d'Anselme évidemment le désir de la vie religieuse. Il veut les imiter, il les connaît, il les aime. Alors il considérera toute sa vie cette éducation monastique comme une grande faveur que Dieu lui a faite. Quand on a goûté à ça dans son jeune temps, j'ai eu ce privilège de 18 ans à 20 ans, à peine 18 ans, 18 ans quelques jours, jusqu'à 20 ans et à peine une semaine. J'ai goûté à ça pendant 2 ans et ça m'a marqué pour le restant de mes jours et je le comprends donc. Et là, Saint Anselme n'a pas encore 15 ans et déjà, il se demande quelle carrière il va embrasser. C'est le problème à 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie, hein? Alors, il veut être sûr de vivre pour Dieu. Ça, il le sait au fond de son cœur. Mais aucun genre de vie lui paraît préférable que la vie monastique, la vie des moines. Mais il va trouver un abbé de sa connaissance dans un monastère. Il y en avait beaucoup dans ce temps-là, hein? Et il le prie de le recevoir au nom de ses religieux, mais le père abbé peut pas accepter de le prendre tout de suite, il est trop jeune. Son père n'a pas donné l'autorisation à Anselme d'entrer en religion. Parce que Gondulphe est un homme puissant, c'est un homme de grande famille. Il n'a que 2 enfants, Anselme et Richera. Et Anselme serait l'héritier de son titre, l'héritier de sa fortune. Alors Gondulphe compte sur Anselme pour l'avenir, puis à aucun prix, il ne peut consentir évidemment le voir se faire moine, certainement pas. Alors Anselme, évidemment passablement frustré, tombe malade. Son état devient grave. Alors il fait demander l'abbé, là, son ami, le père abbé, de venir lui donner l'habit monastique avant de mourir. Il espère qu'on ne lui refusera pas cette consolation. Mais son père, Gondulphe, s'y oppose formellement. Et le père abbé est encore obligé de répondre par un refus. Alors Anselme revient à la santé, puis son père, pour lui enlever toute idée de vie religieuse, là, le fait rentrer dans le monde. Il est en santé, il le fait danser, sauter, etc., et s'amuser. Comme il est doué d'un caractère plutôt ardent, cet Anselme, puis d'un esprit vif, puis enjoué, c'est un jeune seigneur, quoi. Il est vite entouré et recherché tant par des jeunes gens, jeunes garçons de son âge, des jeunes hommes, que des jeunes femmes. Il prend goût aux amusements plutôt frivoles, et là, les avertissements de sa mère, qui est une chrétienne profonde, elle a une grande emprise aussi sur son cœur, ça lui revient, et ça l'empêche de tomber vraiment trop bas. Mais sa mère meurt, avant qu'il ait 20 ans. Et ce n'est là encore que le commencement de ses difficultés. Son père Gondulf conçoit contre son fils une espèce de haine étrange qui devient assez vive, et ça tourne à une attitude qu'ont certains pères à l'égard d'un enfant qu'ils n'aiment pas ou dont ils approuvent pas la conduite. Là, son père approuve pas sa conduite religieuse. Alors, il s'acharne à le blâmer sans arrêt. Une destruction de la personnalité, c'est terrible, ça, quand un père devient comme ça. Alors, ce qui faisait de louable ce pauvre Anselme était encore plus critiqué que s'il faisait des actes, comme on dit, répréhensibles. Alors, plus Anselme se montre prévenant, plus son père est exaspéré. Alors, Anselme, finalement, craint de voir s'aggraver encore une situation qui devient vraiment intenable. Alors, il préfère quitter la maison paternelle d'un jeune homme. Il a dépassé la 20aine, là, ou à peu près 20 ans. Il songe même à quitter sa patrie, là, le nord de l'Italie, le Piémont, plutôt que de s'exposer à des scènes d'où son père et lui... ça, il ne sait pas comment il s'en sortirait. Alors Anselme devient en quelque sorte un fugueur. Ben oui, comme aujourd'hui, voilà donc Anselme accompagné d'un seul serviteur qui traverse les Alpes. Ils ont pour tout équipage qu'un âne qui est chargé de vivres. Mais là, les provisions sont bientôt presque épuisées, ils sont obligés de manger même de la neige dans les Alpes. Mais après s'être arrêté quelque temps en Bourgogne, la Bourgogne ne fait pas partie de la France à ce moment-là, Anselme passe en France, où il demeure 3 ans. Et puis, ensuite, il prend le chemin de la Normandie. La Normandie, donc, comme vous savez, c'est dans le nord-ouest de la France. Alors, il s'arrête quelque temps à Avranches. Aujourd'hui, il y a des carmélites, là, si vous allez à Avranches. Et il entend parler de la fameuse abbaye du Bec, qui s'appelle aujourd'hui du Bec Éloin, en l'honneur du fondateur Éloin. Elle existe toujours, l'abbaye du Bec. C'est dans l'Eure. C'est pas loin d'Évreux, la fameuse ville d'Évreux dont on a tellement entendu parler. L'évêque d'Évreux a tellement fait parler de lui dernièrement. Ce sont des bénédictins olivétains qui sont là à l'abbaye du Bec. Et des bénédictines aussi, tout près. Alors, il entend partir de cette abbaye puis de son école. Alors, le goût de la vie mondaine n'a vraiment pas étouffé dans l'âme d'Anselme son goût de l'étude, son amour de l'étude. Alors, il prend la résolution d'aller s'instruire dans cette école. Il n'a alors que 26 ans. Il vient de passer loin de Dieu les 6 plus belles années de sa vie, on peut dire. Mais ces années lui ont appris à connaître le monde et à le mépriser. Alors, fatigué de ses agitations puis dégoûté des plaisirs de cette vie idiote, il est blessé encore davantage, peut-être, par les injustices de cette vie dans le monde. Alors, il entre à l'école du Bec, le cœur meurtri, 26 ans, une vocation un peu tardive pour l'époque, peut-être. Puis, il a un besoin de calme et de paix. Et c'est transformé, ça, par la prière puis l'amour. Et ça va pouvoir devenir une des plus précieuses vertus monastiques pour lui. Et là, saint Anselme, futur saint Anselme, se mène aux étudiants laïcs que l'on admet à l'école de l'abbaye, puis il prend immédiatement la première place. Tous ses compagnons admirent son étonnante pénétration des choses. Plusieurs veulent se faire ses élèves déjà. Alors le maître de l'école, qui s'appelle Lanfranc, c'est un des personnages les plus connus du XIe siècle, un très grand savant qui dirige l'école de l'abbaye du Bec, Lanfranc, le moine, là. Il s'occupe d'Anselme, il s'intéresse beaucoup à lui. Il est émerveillé des progrès, de cette intelligence vraiment puissante. Alors Lanfranc se décharge même sur lui d'une partie de son enseignement, ça va jusque-là. Mais Anselme sent que la science humaine, c'est une nourriture creuse, qui laisse son âme bien vide si Dieu ne la remplit pas, comme il a raison. Et alors il commence à faire toutes ses actions dans l'intention de plaire à Dieu. Il méprise le monde et ses plaisirs. Puis il pense à devenir moine. Mais où? Est-ce qu'il va aller à la grande abbaye de Cluny, en Bourgogne, ou bien s'il va rester au Bec en Normandie. Bec, ça s'appelle comme Bec, B-E-C, tout simplement. Hein. Alors, à Cluny, il y a la sévérité de la discipline. Ça l'intéresse peut-être un peu moins. Au Bec, ce serait la science éminente de l'enfant. Or, il songe à devenir un moine savant, vraiment. Mais aspirer comme ça à la prééminence, aux louanges, à la célébrité, ce n'est pas le fait d'un véritable moine, hein? Le Bec lui paraît être pourtant le vrai lieu où il doit rentrer. On sent ça quand on est dans un monastère, quand on est jeune, puis on veut rentrer puis se faire moine. On sent, on dirait, dès le début, que c'est là, et que c'est pas dans un autre monastère. C'est très curieux, la vocation monastique, parce qu'il faut y passer sa vie. Alors Dieu, il sera dans ce monastère du Bec, le seul objet de ses pensées et de ses désirs, son seul amour. Son seul amour, ou d'ailleurs ce sera sa contemplation, la contemplation de Dieu, la pensée de Dieu, toujours présente à sa mémoire. Et tout ça, ça va faire son bonheur. Mais pourquoi ne pas embrasser, il se pose la question, la vie érémétique? Pourquoi pas devenir ermite? Moi, ça m'a tenté, je suis allé à la Grande Chartreuse, mais c'est trop difficile. Ou bien encore, il y a la tentation aussi de rester dans le monde, et là, de trouver une obscurité dans le monde, d'itinérer complètement. Et puis, il pourrait consacrer sa fortune, son patrimoine, comme on dit, au soulagement des pauvres. Alors, il hésite, il est plein de troubles. Alors, il va ouvrir son âme à l'enfant, puis il lui demande de décider pour lui, mais celui-ci n'ose pas se prononcer sur une question de cette importance. Alors, il conduit Anselme, ce jeune étudiant, à l'archevêque de Rouen. Oh, l'archevêque est un homme d'une grande piété et d'une grande prudence. Anselme répète donc à cet archevêque qui s'appelle Morille ce qu'il a dit au prieur du Bec. Et l'évêque lui dit, choisissez donc la vie monastique. L'archevêque est pas bête, hein? Elle l'emporte, dit-il, sur les deux autres par son excellence et ses avantages. Alors dès lors, les hésitations d'Anselme disparaissent. Sa vocation est irrévocablement décidée, puis il entre au Bec. Et dès le début de sa vie religieuse, il s'applique avec une ferveur infatigable à réaliser l'idéal monastique tracé par saint Benoît dans sa règle. Et pendant les 3 ans qu'il reste simple moine, il va de progrès en progrès. Il est même honoré, on peut dire, et admiré de tous. Et peu après son noviciat, eh bien, il est ordonné prêtre. Ça se fait vite. Il fait une étude approfondie des saintes écritures et des questions philosophiques les plus ardues. Puis en 1063, l'enfant est appelé à gouverner, lui, l'abbaye de Saint-Étienne de Caen. C-A-E-N, comme vous savez. Pierre Luin, le fondateur du Bec, n'hésite pas à nommer Anselme son prieur, son adjoint principal, malgré sa jeunesse. Il n'a que 30 ans. Et c'est une mission difficile et délicate. Elle lui attire des épreuves. Et là, les anciens religieux qui sont froissés se prennent à le détester puis à le dénigrer. Hein. Et là, la douceur d'Anselme finit par les amadouer. Puis les religieux se rendent compte que leur prière suit dans ses actions la voie simple et droite. Puis leur malveillance fait place à des sentiments meilleurs. Alors, aux ponctions absorbantes de prieurs claustrales, Anselme joint celle d'écolâtre, puis son âme méditative souffre de cette multiplicité de toutes sortes de soins. Il n'a pas le temps d'étudier pour lui-même, ni de contempler, et d'ailleurs il se sent assez peu d'attrait pour ses fonctions. Puis il va donc une fois encore confier ses perplexités à l'archevêque de Rouen, et il lui dit, « Mon très cher fils, dit l'évêque, ne poursuivez pas ce que vous cherchez, ne vous retirez pas du service des autres, pour ne vous occuper que de vous seul. J'ai entendu citer, et j'ai connu moi-même plusieurs qui, après avoir refusé de travailler pour les autres, sous le prétexte de conserver leur repos, sont tombés de mal en pis. Alors je vous ordonne, au nom de la sainte obéissance, de garder les responsabilités que vous exercez aujourd'hui. Ne les quittez que sur l'ordre de votre abbé, et dans le cas où vous seriez appelé à une dignité plus haute, acceptez-la. » Et alors donc, revenons à notre saint Anselme, qui se fait ordonner par l'archevêque qu'il est allé consulter, d'obéir en gardant des responsabilités, car les responsabilités, ça prend une grande dose d'obéissance, au fond, pour les exercer. C'est tellement plus simple de se retirer au fond de sa cellule que de prendre de grandes responsabilités, de travailler d'arrache-pied au salut des autres, à aider les autres, à aimer les autres. Il lui dit bien, ne l'équitez que sur l'ordre de votre abbé. Et dans ce cas, vous seriez appelé à une dignité plus haute, acceptez-la. L'évêque lui avait ajouté, d'ailleurs, je crois savoir, en effet, que vous ne resterez pas longtemps en prière et que vous ne tarderez pas à être élevé à une plus haute charge. Alors, déçu dans son attente, Anselme revient à l'abbaye. Mais il est décidé à remplir son devoir avec plus de fidélité puis de dévouement que jamais. Alors il supporte sans murmure les défauts de ses frères moines. Il témoigne d'une grande bonté pour les religieux malades. Il leur montre, dit-on, la tendresse d'une mère. Il gagne ainsi la confiance affectueuse de tous. Et depuis que l'enfant a quitté le bec, le moine Anselme entretient avec lui une correspondance suivie. On a des lettres. C'est demeuré, c'est extraordinaire. Et plus tard, l'enfant, élevé au siège, lui, de Canterbury aussi, a souvent éprouvé bien des ennuis. Il cherche un encouragement. Il est en Angleterre, là-bas. Il cherche un encouragement, un appui dans ce qu'on pourrait appeler la rectitude du commandement, ce qui est difficile. Puis là, il cherche la charité aussi des conseils de son ami Anselme. Et les lettres d'Anselme à l'enfant sont nombreuses et très, très intéressantes. On les trouve dans la patrologie, hein? Dans les grands ouvrages, dans les grandes bibliothèques. À mesure que les années s'accumulent sur la tête de Herluin, le fondateur de Dubec, mais celui-ci, qui est abbé Dubec, se décharge sur son prieur Anselme d'une partie énorme de ses fonctions. Et c'est pour le prieur Anselme l'occasion de manifester son désintéressement, son esprit de pauvreté. Les rapports qu'il est obligé d'avoir avec le monde font toujours ressortir, vraiment chaque jour, la douceur de son caractère, le charme de sa conversation, sa franche cordialité. Une âme pure, quoi, une belle âme, comme on dit. Tout ça s'unit à une grande vertu, puis à des connaissances prodigieuses, qui lui donnent un prestige puis une influence, auxquelles nul ne peut échapper. Le nom du prieur du Bec est sur toutes les lèvres. Sa réputation s'étend non seulement dans toute la Normandie, mais dans toute la France, dans la Flandre, dans la région de la Belgique, là, la Hollande, puis les contrées voisines, puis jusqu'en Angleterre, évidemment. À la mort d'Herluin, son abbé, en 1078, Anselme a 45 ans. Et les religieux, assemblés pour l'élection d'un nouvel abbé, ben, nomment Anselme, à l'unanimité. Il est élu. Il s'efforce de refuser cet emploi malgré le conseil de l'archevêque. Mais au fond de sa conscience, il entend la voix de l'archevêque Morille, puis finit par se résigner à accepter. Et son premier soin, c'est de se décharger de l'administration temporelle. Il est un véritable supérieur d'un monastère. Il se réserve donc quoi le rôle d'instruire les moines? Car le moine doit parler, l'abbé doit parler à ses moines tous les jours. Quand j'étais au monastère de Saint-Benoît-du-Lac, de 1944 à 46, le père prieur, dont Mercure nous parlait, si je me souviens bien, presque exclusivement de la Trinité, tous les jours. Tous les jours en fin d'après-midi. À la réunion, au chapitre. Alors il va se réserver le rôle d'instruire les moines, de leur donner des avis, de les corriger, puis de vaquer à la contemplation. À ses yeux, chacun de ces moines est une âme à conduire vers la perfection, s'il le peut. Et dans tous les cas, un moine, c'est une âme à sauver au prix de tous les sacrifices. Son moyen principal, c'est la bonté. Saint Anselme sait se montrer ferme, mais sans jamais cesser d'être bon. On le voit dans beaucoup de ses lettres. Il y a là comme une espèce de parfum d'une douce tranquillité. Au commencement de l'année 1092, le comte de Chester, surnommé Hugues le Loup, à cause de la rudesse brutale de son caractère, invite Saint-Anselme par lettre à se rendre auprès de lui, puis à lui amener une colonie de moines. Il désire resserrer les liens d'une amitié ancienne et peut-être aussi l'espère faire nommer Anselme à l'archevêché de Canterbury. Anselme, qui ne se soucie absolument pas de cette dignité et qui se défie de toutes les manœuvres et les magouilles, il décide de demeurer au bec. Quelque temps après, Hugues le Loup tombe gravement malade. Il en avertit aussitôt Anselme et le supplie avec instance de venir prendre soin de son âme. Les intérêts de son abbaye en Angleterre, puis un troisième appel du comte, ont enfin raison des résistances d'Anselme. À peine son arrivée est-elle connue à Canterbury que les moines, les laïcs le désignent tout haut comme le futur archevêque. Ça arrive, ça, le 7 septembre 1092. En mars 93, l'année suivante, un des grands du royaume, qui s'entretient familièrement avec le roi, est amené à lui dire « Nous n'avons jamais vu un homme d'une aussi grande sainteté qu'Anselme, l'abbé du Bec. Il n'aime que Dieu. Il n'aime que Dieu et ne désire rien de ce qui passe. » « Vraiment, dit le roi en ricanant, pas même l'archevêque de Canterbury. » Oui, l'archevêché de Canterbury, plutôt. Alors le roi, paraissant revenir de meilleurs sentiments, désigne Anselme comme le plus digne d'occuper le siège de Canterbury. Les évêques et les seigneurs présents, finalement, applaudissent à l'unanimité. Et l'élection a lieu le 6 mars 1093. Les moines du Bec, à cette nouvelle, font une opposition désespérée, veulent pas perdre leur abbé, mais c'est en vain. Et on voit assez quel était l'attachement de ces moines pour leur abbé. De fait, il avait porté à son apogée la célébrité de leur école du Bec. Avant de résumer le récit des luttes de l'archevêque, ce n'est pas sans intérêt de dépeindre ici ce professeur, ce docteur. Cet Anselme a avoué lui-même qu'il a eu toujours une répugnance marquée à enseigner les éléments de la grammaire, mais il se plaisait à donner tous ses soins à l'adolescence. Il aspirait à former des hommes à l'âme haute, à l'esprit judicieux et solide, au cœur loyal et bon. Est-ce que c'est ça qu'on fait dans nos collèges, dans nos cégeps? Accorder tous les soins à l'adolescence, aspirer à former des hommes et des femmes, aujourd'hui s'il y a des femmes, à l'âme haute, à l'esprit judicieux et solide, au cœur loyal et bon. Anselme a voulu développer dans les jeunes gens trois dispositions d'un excellent présage pour leur avenir. Hein. Quoi? Le goût du silence. Ben oui, étrange. Le goût du silence, la réserve dans le maintien, la pudeur aussi. Il recommandait de les traiter toujours avec douceur et bonté, mais cette éducation morale de ses élèves n'observait pas le meilleur de l'activité d'Anselme. Dans ses fonctions d'écolâtre, comme on dit, il a élevé à des hauteurs surprenantes l'enseignement philosophique et soumis à l'autorité de Dieu et de son Église. Par la foi, il allait ensuite jusqu'au bout en disant « Je crois, mais faites-moi comprendre ». Il voulait voir ce qu'il avait dans les formules « Vous croyez cette vérité de foi », disait-il, « mais savez-vous pourquoi vous la croyez ?» Alors il enseignait avec profondeur et sans confondre la foi et la raison, sans les mettre sur le même pied, il ne les a jamais séparés. Il voulait une foi intelligente et profonde. Son enseignement, vraiment supérieur, n'a pas tardé à soulever partout une admiration enthousiaste. On lui a demandé de condenser dans un ouvrage la substance de sa doctrine. Mais il était modeste, puis il hésitait. Il a fini par se laisser convaincre. Alors, de l'abbaye du Bec, où il était abbé, sont sortis quatre premiers traités, l'un sur la vérité, l'autre sur le libre arbitre, notre liberté de choisir, hein? La liberté de l'homme et de la femme, la vraie liberté. Troisièmement, de la chute du diable. Oui, le diable qui a s'est révolté contre Dieu et qui a perdu le privilège de pouvoir voir Dieu, de l'aimer. Et le quatrième, du grammairien, s'est occupé de la grammaire. C'était qu'un début, et bientôt sont parus deux traités philosophiques d'une toute autre importance, le fameux monologium, le monologue, le... disons une méditation profonde, très longue, puis le proslogion. Le monologion, c'est une méditation, donc, sur les problèmes les plus élevés que se pose à l'esprit religieux. Hein. Qu'est-ce qui se pose surtout? Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? C'est ça la grande question. Hein. Et de la considération du monde aussi, la pensée s'élève par degrés jusqu'à Dieu. Si c'est normal, hein. C'est l'être souverainement parfait. J'aime bien d'ailleurs ce qu'il disait. L'idée même d'imaginer qu'il puisse exister un Dieu souverainement parfait, c'est une preuve de son existence. Parce que cette capacité que nous avons de nous imaginer cela vient de Dieu. Il a parlé de la Trinité des personnes, de la génération du Verbe, pardon, dont je vous ai parlé il y a quelques jours en vous faisant une émission complète sur la Trinité, hein, la génération de la deuxième personne de la Trinité qu'on appelle le Verbe, la parole, le Fils. Puis la procession du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il procède, c'est pour ça qu'on dit procession, je m'excuse d'expliquer ça un peu naïvement. C'est l'émission du 15 avril, hein, il y a une semaine, la semaine dernière, mardi. Vous pouvez vous y référer, je ne veux pas vous la répéter. Alors, c'est une sorte d'excursion à vol d'aigle sur des sommets les plus élevés de la théologie et aussi de la philosophie et de la poésie. Moins mon émission que le monologion de Saint-Anselme, n'est-ce pas, hein? Les principes là, s'épanouissent en toutes sortes de façons absolument admirables autour de questions de morale même et d'ascétisme. C'est Saint-Anselme qui le dit lui-même, il dit « C'est un exemple de la manière de méditer sur les choses de la foi », puisqu'il dit de son propre monologion. Cette œuvre est parue à l'auteur comme peu digne d'être conservée. Il l'a envoyé à Lanfranc, dont il sollicitait l'examen, son ancien professeur. Il voulait des corrections, et Lanfranc était méfiant, il hésitait. Là, les élèves d'Anselme ont voulu... chacun lire ce traité. Alors certains moines, des clercs, en ont fait toutes sortes de critiques. L'âme délicate d'Anselme en a eu à souffrir un peu. Puis le proslogion, c'est aussi son histoire. Hein? Il est venu à la pensée d'Anselme de rechercher si l'on ne pourrait pas prouver par un argument unique tout ce que la foi nous apprend sur Dieu et ses attributs, comme on dit, ses qualités, entre guillemets, là, ses attributs. La grande difficulté qu'il a rencontrée dans cette recherche était pour lui une source de trouble. C'est imaginer qu'il y avait là un piège du démon, d'autant que cette pensée lui enlevait l'appétit et le sommeil, ça l'obsédait durant ses prières. Après toutes sortes d'essais de rédaction, il a fini par confier au parchemin ce qu'on appelle l'argument de Saint-Anselme. C'est un opuscule qui a reçu le nom de proslogion, ou entretien, si vous voulez, ça veut dire entretien, parce que l'auteur y parle soit à Dieu, soit à lui-même. Alors les différentes écoles philosophiques, là, jusqu'à nos jours, ont apprécié ça de différentes façons. Mais tous ont reconnu, du moins, que cet élève d'un esprit était très en avance sur les idées et les méthodes du XIe siècle. Et Anselme a été vraiment un penseur de génie sous ce rapport-là. Sur le problème de la rédemption et du péché originel, c'était moins intéressant. L'enseignement d'Anselme, de toute façon, a eu ce grand mérite d'être simple et clair. Hein? D'ailleurs, de vive voix ou par écrit, il s'exprimait dans un style simple, un style familier. Il employait la force du raisonnement puis des exemples sensibles, des exemples concrets. Il n'était pas content seulement d'établir des principes clairs et solides là, pour apprendre à étudier chrétiennement aussi. Il a montré par son exemple la bonne manière d'instruire les autres. Il était encore que prieur dans son abbaye et sur la demande de ses moines, Anselme avait composé des méditations et des prières. Ses prières en prose, il a joint des prières rythmiques adressées à la Sainte Vierge. Il enseignait comment on devait parler à Dieu, à sa mère et aux saints. Comme archevêque de Canterbury, bien Anselme, en acceptant ce fardeau, prévoyait bien les difficultés qui naîtraient des prétentions du roi. Alors il y a eu toute une guerre, on peut dire, de pouvoir entre lui et le roi au sujet des investitures. C'est la question des investitures. Qu'est-ce que ça veut dire? le pouvoir ou le droit de nommer les abbés des monastères et les évêques. Quand c'est le roi qui nomme ça, il nomme ses amis. Il peut nommer des gens complètement abominables. Quand c'est l'évêque, l'archevêque, ça a plus de chance d'être honnête, parce que souvent les évêques sont honnêtes dans ce temps-là. Aujourd'hui, ils sont tous honnêtes, on le sait. Mais dans ce temps-là, c'était pas pareil. Alors, ça pouvait restreindre donc les libertés de l'Église. Et ça allait vers le schisme. C'est un problème très difficile. C'était le roi Guillaume le Roux qui a commencé à lui créer des troubles là-dessus. Mais Anselme a affirmé l'autorité du pape Urbain II dans un discours qui renferme un témoignage mémorable en faveur de la suprématie du pape. On est en Angleterre, hein? Oublions pas que dans quelques siècles, ça va être tout le contraire avec Henri VIII et l'anglicanisme. Là, à ce moment-là, on est au XIe siècle, les barons, pleinement convaincus de la distinction des deux pouvoirs entre le pouvoir du pape à Rome sur toute l'Église et le pouvoir du roi, ont fait au roi une réponse mémorable. Les barons, c'était les nobles de l'époque. Ils ont dit, « Anselme est notre archevêque, c'est à lui de gouverner l'Église et la religion dans ce royaume. Comme chrétiens, nous ne voulons ni ne pouvons nous soustraire à son autorité. » Nous, aujourd'hui, l'autorité de l'Église d'Angleterre, qu'on appelle l'Église anglicane, est sous l'autorité de qui? De la reine d'Angleterre. Et elle risque de passer sous l'autorité de ce pauvre prince Charles qui deviendra le roi Charles. Étrange chose. On sait que le pouvoir, aujourd'hui, du roi ou de la reine d'Angleterre, et bien discuté en Angleterre, on le remet plutôt entre les mains des évêques anglicans, mais particulièrement de l'archevêque de Canterbury, qui est marié, qui a des enfants. En 1097, au retour de une campagne qui n'avait pas été heureuse dans le pays de Galles, ce roi Guillaume se plaint que l'archevêque ne lui a pas fourni un contingent suffisant, alors il demande qu'il vienne se justifier en sa présence, et dans cette situation délicate et difficile, M. Anselme déclare vouloir s'adresser en personne au pape pour lui demander ses conseils et son appui. Alors il sollicite la permission d'aller à Rome, imaginez, c'est pas à l'autre bout du monde. Et le roi Guillaume commence par refuser. À la suite d'une entrevue à Winchester, il fait dire à Saint Anselme qu'il peut partir, mais sans rien apporter de ce qui appartient au roi. Il lui signifie en même temps d'être prêt à mettre à la voile, c'est des bateaux à voile, dans 11 jours seulement. Anselme croit devoir venir lui adresser ses remerciements pour une permission, qui est quand même accordée de bien mauvaise grâce. Il lui dit, « Je viens vous assurer que je vous conserve toute mon affection, mais comme il peut se faire que je ne vous renvoie plus, je vous recommande à Dieu en qualité d'archevêque et de père, et je désire, avant de vous quitter, vous donner ma bénédiction, si toutefois cela vous plaît. » Et le roi lui dit volontiers. Et le roi s'incline profondément pendant qu'Anselme trace sur lui le signe de la croix. Mais le lendemain, dans un discours touchant, l'archevêque fait ses adieux à son peuple. Il prend sur l'autel de la cathédrale le bâton de pèlerin. Il se dirige vers Douvres, où il y a des grandes falaises blanches, c'est beau à voir, au sud de l'Angleterre. Pendant qu'une foule nombreuse l'accompagne, verse des larmes, un messager royal vient fouiller même les bagages de Saint Anselme, puis finalement lui donne la permission de s'embarquer. C'est le 10 octobre 1097. Saint Anselme est salué partout comme un athlète de l'Église, comme on dit à l'époque, un docteur, un saint. C'est triomphal, son voyage. Il passe quelque temps avec l'abbé Hugues au monastère de Cluny. Saint-Hugues, qui va mourir une semaine après Saint-Anselme, d'ailleurs, si je me souviens bien, Saint-Hugues habite Cluny, grand saint. Il s'arrête à Lyon, Saint-Anselme, près de l'archevêque, qui s'appelle aussi Hugues. Et puis, finalement, il arrive à Rome pour les fêtes de Pâques en 1098, après un voyage très long. Il arrive le 6 mai. C'est quelque chose, hein? C'est-à-dire, c'est un voyage de 6 mois, plutôt. J'ai de la misère à me relire, je m'excuse. Et Urbain II, le comble d'éloge le pape, là, en présence de cardinaux, puis il l'oblige à lui faire publiquement le récit de tout ce qui s'était passé. Alors saint Anselme exprime avec modestie, il ose à peine lever les yeux, le pape lui promet sa protection. Il écrit au roi d'Angleterre une lettre énergique dans laquelle il l'engage là, à rétablir l'archevêque de Canterbury dans tous ses droits. Finalement, saint Anselme finit un traité Cur Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est-il incarné? C'est là qu'il exprime toutes sortes d'idées très discutées encore aujourd'hui au sujet du péché originel et de la rédemption. Et en octobre 98, il y a un concile qui est ouvert avec 123 évêques et le pape amène saint Anselme, auquel il donne une place d'honneur. Et alors il est discuté, on discute de la procession du Saint-Esprit, je répète le mot, le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, ou seulement du Père, selon les Grecs, et toute la discussion tourne autour de ça. Vous pouvez écouter, si vous l'avez enregistré, mon émission de mardi de la semaine dernière sur la Trinité. Là, de retour à Rome, Urbain II retient Anselme jusqu'aux fêtes de Pâques de l'an 1099, puis au Concile, il a tenu, toute époque, on a porté la peine d'excommunication contre les laïcs qui s'arrogeaient le droit de donner l'investiture, comme je vous expliquais tout à l'heure, des habits puis des évêchés, contre les personnes même qui les recevraient d'eux. C'est toute la querelle qui a duré jusqu'à tout récemment, ça, du pouvoir des politiciens, des rois, des princes et tout ça, de nommer les évêques et les abbés de monastères. Alors, on peut dire qu'il y a eu des miracles, se sont accompagnés sur les pas de saint Anselme, partout où il est passé. Et je vous fais grâce de ces miracles qui tiennent un peu du Moyen-Âge, mais qui sont très beaux, très belles choses. Alors, à peine il revient chez lui, à peine débarqué à Douvres en 1100, Anselme se rend auprès du roi, qui le reçoit avec cordialité, mais immédiatement s'élève une grande émêlée, qui les met tous les deux dans l'embarras. Le nouveau roi Henri invite Anselme à lui prêter hommage selon la coutume, et l'archevêque, chargé par le Saint-Siège de faire exécuter les décrets du Concile, et du dernier Concile de Rome encore, répond qu'il ne peut les violer lui-même relativement aux investitures par les laïcs. C'est toute la querelle toujours des investitures. Et le roi Henri persiste dans son désir de nommer les évêques. Henri continue à investir donc des évêques et des abbés, mais Anselme n'est pas appelé à les consacrer, et on insiste auprès de lui. Il refuse énergiquement. Les évêques élus rendent la crosse reçue des mains du roi, puis refusent d'être sacrés par un autre que saint Anselme. La réponse du pape arrive enfin, elle répudie complètement l'histoire de tout ce qui est arrivé. Le roi Henri est embarrassé par l'opinion publique favorable à saint Anselme, demande à celui-ci de se rendre lui-même à Rome malgré son grand âge. Alors Anselme retraverse encore toute l'Europe, puis il est reçu à Lyon une défense de rentrer en Angleterre, à moins de s'engager à exécuter les volontés du roi. Le roi est terrible, et le roi se montre plein finalement de courtoisie. Il change d'avis. Il s'offre à restituer tous les revenus au siège de Canterbury, puis demande à Anselme de rentrer en Angleterre. Il se soumet au pape. Il a raison, d'ailleurs. Il faut bien séparer l'Église de l'État. Et le roi Henri continue d'opprimer le clergé, qui demande l'assistance, puis le retour d'Anselme. Alors, Henri finalement s'engage à ne plus continuer ses exactions, à ne plus lever de taxes sur le clergé. Et puis, il demande à Anselme de rentrer immédiatement en Angleterre, d'y administrer le royaume, même pendant que lui-même va demeurer en Normandie pour y rétablir ses affaires. Là, la longue querelle concernant les investitures en Angleterre prend fin par une sorte de compromis en 1107. Personne, désormais, ne recevrait du roi ou d'un laïc l'investiture d'un évêché ou d'une abbaye par la crosse et l'anneau. Et là, enfin, l'Église semble libre pour un certain temps, jusqu'à temps qu'elle soit soumise au roi d'Angleterre, Henri VIII, de façon catastrophique, au XVIe siècle. Alors Anselme, saint Anselme, survit peu de temps à toute cette lutte contre le roi Guillaume, le roi Henri, son successeur, pour cette lutte qu'il a soutenue là, pour les droits et les libertés de l'Église catholique. Il n'y avait pas d'Église protestante dans ce temps-là, ni d'Église anglicane. Il n'y avait que l'Église catholique. Et alors, nonobstant les graves indispositions des dernières années, là, il fait preuve de la même activité, d'une énergie indomptable au travail. Il s'applique à rendre efficaces là, toutes les mesures légales de l'Église contre la simonie. La simonie, c'est l'achat des charges. Des gens qui achetaient des charges ecclésiastiques épouvantables. Et puis, il y avait l'incontinence des clercs qui avaient des maîtresses, des amants, qui se conduisaient très mal. Et par ses efforts, ben, il a déterminé le roi à supprimer aussi la fabrication de la fausse monnaie, à maintenir aussi une discipline sévère pour faire disparaître chez les nobles des actes de violence dont le peuple avait longtemps souffert. Saint Anselme a contribué aussi à l'érection de l'évêché d'Ely, E-L-Y, ça existe toujours, pour décharger l'évêque de Lincoln. Il a maintenu le prestige de l'archevêché de Canterbury contre les prétentions de l'archevêque élu de York. Il n'a diminué en rien son activité intellectuelle, cependant. Il a entretenu une grande correspondance avec des personnages importants de l'époque. Il a écrit son traité sur l'accord de la préscience, de la prédestination, de la grâce et du libre arbitre. C'est toute une discussion théologique extrêmement importante qui a eu lieu pendant des siècles. Je me souviens, on discutait de ça quand j'étais jeune encore, au collège. 6 mois après sa mort, après la mort de l'évêque, il est tombé dans une faiblesse extrême. 6 mois avant sa mort, il est tombé dans une grande faiblesse. Et c'était plus possible pour lui de célébrer la messe. Il se faisait porter chaque jour dans sa chapelle pour entendre la messe. Le dimanche des rameaux, quelqu'un de son entourage lui donnait à entendre que peut-être il quitterait ce monde pour célébrer Pâques au ciel. Il disait, si Dieu le veut, je lui obéirai volontiers. Mais s'il me permettait de rester parmi vous jusqu'à ce que j'aie résolu la question de l'origine de l'âme qui me préoccupe, je lui en serais bien reconnaissant. T'es toujours préoccupé par des questions de foi. Hein? Comme on lui demandait de bénir le royaume d'Angleterre puis la famille royale, sa main, toute faible, a paru retrouver un peu de force pour tracer le signe de la croix. Le mardi de la semaine sainte, pendant que les moines du monastère de Canterbury chantaient matine, un de ceux qui le veillaient a eu la pensée de lui lire la passion de notre Seigneur, selon saint Luc. Puis au moment où il prononçait ces mots, « Puisque vous avez été ferme avec moi dans la lutte et les tentations, voici que je vais vous préparer le royaume que mon Père m'a préparé à moi-même pour que vous mangiez et buviez avec moi dans mon royaume. » Alors saint Anselme, ce grand moine bénédictin, archevêque de Canterbury, a souri. Il a levé les yeux au ciel. Sa respiration devenait plus lente et a demandé à être étendu sur la cendre. Hein? On mourait souvent sur la cendre dans cette époque, jusque même des siècles plus tard. Il a reçu le Saint Viatique, c'est-à-dire la Sainte Communion, avec un amour d'ange, de séraphin même. Et quand on a voulu lui donner l'extrême-onction, le sacrement des malades, comme on l'appelle aujourd'hui, parce qu'on le donne plus tôt, il n'y avait plus que quelques gouttes d'huile à peine suffisantes pour faire les onctions, hein, et l'huile s'est multipliée comme par miracle. Et cet saint archevêque, saint Anselme, a rendu son âme à Dieu le matin du mercredi saint, 21 avril 1109. Il était dans la 76e année de son âge. Le corps d'Anselme a été inhumé dans la cathédrale de Canterbury. Alors, il y a eu des miracles qui ont été obtenus par son intercession, puis une première demande de canonisation a été faite par nul autre que saint Thomas Becket lui-même, qui est mort assassiné en 1170 sur l'ordre du roi de son temps. En 1492, à la veille de la séparation de l'Église d'Angleterre de l'Église catholique, et sur les instances d'Henri VII, le roi d'Angleterre, bien, le pape Alexandre VI, ce mauvais pape pourtant, a donné au cardinal Morton, archevêque de Canterbury, une bulle autorisant le culte de saint Anselme, comme quoi ce mauvais pape a fait de bonnes choses. Sa fête a été étendue à saint Anselme à toute l'Église par Alexandre VIII en 1690. En 1720, Clément XI l'a déclaré docteur de l'Église. Dans le bréviaire, aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle maintenant la liturgie des heures, une belle prière de saint Anselme, je vous en lis un bref passage. Mon âme, as-tu trouvé ce que tu cherchais? Tu cherchais Dieu? Et tu as trouvé qu'il était supérieur à tous les êtres, et tel qu'on ne peut rien penser de meilleur que lui. Qu'il était la vie même, la lumière, la sagesse, la bonté, l'éternelle béatitude et la bienheureuse éternité. Et qu'il l'était toujours et partout. Seigneur mon Dieu, qui m'a créé et racheté, réponds au désir de mon âme en lui déclarant ce qui diffère en toi de ce qu'elle a vu, afin qu'elle contemple à découvert l'objet de son désir. Elle s'applique à mieux voir, et elle ne voit que ténèbres au-delà de ce qu'elle a vu, ou plutôt, elle ne voit pas de ténèbres car il n'y en a pas en toi, mais elle voit qu'elle ne peut voir davantage, bornée qu'elle est par ses propres ténèbres. Vraiment, Seigneur, elle est inaccessible, la lumière où tu habites. Nul autre que toi, vraiment, ne peut pénétrer en cette lumière, et là te contempler à découvert. C'est pour cela, en vérité, que je ne peux la voir. Elle est trop éclatante pour ma vue. Et pourtant, tout ce que je vois, c'est grâce à elle que je le distingue. Comme un œil trop fragile voit grâce au soleil tout ce qu'il aperçoit, sans pouvoir cependant regarder le soleil lui-même. Ô Seigneur Dieu, par ton Fils, tu nous as donné l'ordre, ou mieux le conseil, de demander, et tu as promis que nous serions exaucés, afin que notre joie soit parfaite. Je le fais, Seigneur. La prière que tu nous suggères, je la fais, par celui qui est notre conseiller admirable. Puissais-je recevoir ce que tu as promis par ta vérité, pour que ma joie soit parfaite. Dieu vrai, je te fais cette prière. Exauce-moi, pour que ma joie soit parfaite, que désormais ce soit la méditation de mon esprit et la parole de mes lèvres, que ce soit l'amour de mon cœur et le discours de ma bouche, que ce soit la faim de mon âme, la soif de ma chair et le désir de tout mon être, jusqu'à ce que j'entre dans la joie du Seigneur, Dieu unique en trois personnes, béni pour les siècles. Amen.